Docteur Sona Konaté, médecin épidémiologiste au département de la santé du comté de Prince George dans l'état américain du Maryland. Elle nous rejoint de la ville de Chevely. Et le docteur Roger Etoua, spécialiste de santé publique au Cameroun. Il intervient depuis Douala. D'emblée, faisons un tour de table rapide. En Afrique comme ailleurs dans le monde, plus d'un an de pandémie, de chamboulement dans nos vies, de tragédies au quotidien. Brièvement, quel bilan faites-vous de cette crise sanitaire sans précédent? Je commence par vous, docteur Dorothée Kindé-Gazar.
Bonjour, je salue tous les auditeurs. Et ma première impression, c'est que la situation ne fait que s'aggraver. On avait eu un virus, mais maintenant on a une dizaine de variants avec des mutations et beaucoup d'interrogations existent encore quant à la physiopathologie de la maladie, quant à, je dirais, la thérapeutique, le traitement. Et maintenant, nous avons des vaccins que nous allons déployer dans nos pays africains également. Oui. Mais quelle est la durée d'immunité que ces vaccins confèrent? Encore des incertitudes. Est-ce que nos pays peuvent vacciner toute la population ciblée? Encore des incertitudes.
On va essayer de répondre à cette question tout à l'heure. Marine Baga.
Rapidement, bilan, si on peut parler d'un bilan, 130 millions d'infectés, dont 2,8 millions de morts, presque 3 000. Et des solutions apportées, on peut noter aucune solution curative pour l'instant et une dizaine de solutions préventives, notamment les vaccins. Et malgré ça, nous sommes toujours dans l'incertitude avec de multiples variants, mais également la virulence de ces variants qui amènent certains pays européens aujourd'hui à reconfiner leur population. Donc nous pouvons dire incertitude quant à la solution définitive, mais également quant à la symptomatologie que présentent les nouveaux variants.
Donc, même question, Roger Etoua, en deux mots.
Oui, effectivement, nous suivons une épidémie dont nous n'avions pas imaginé l'ampleur à ses débuts. Nous pensons que ce serait une simple grippette passagère. Et nous voilà avec des millions de morts entre les bras. Et l'Afrique semble également très impactée à l'image du monde. Et qui, cette crise, qui n'est plus seulement une crise sanitaire, mais qui est également devenue une crise économique, une crise sociale, une crise culturelle, une crise multiviscérale qui touche l'humanité dans ses fondements. Et le pire, c'est qu'on semble être dans l'impasse avec des solutions qui sont encore assez floues pour l'avenir.
Et vous, docteur Konaté, votre bilan, rapidement.
Bonjour à tout le monde, bonjour à nos auditeurs, bonjour à tout le panel. Mon bilan, c'est qu'il y a quelques mois, il y a peut-être un an, nous étions là sur ce même plateau et nous avions beaucoup, beaucoup d'inconnus. Et là, on peut se mettre à citer tous les problèmes, comme mes prédécesseurs l'ont dit. Tous sont valides, bien sûr. Mais là, je vois que nous avons fait un petit pas en avant, malgré qu'il y a beaucoup d'inconnus. Donc, mes trois points principaux sont continuer les efforts de prévention, la sensibilisation et aussi un espoir de sortie de crise pour éviter ce qu'on appelle la fatigue du Covid, que les gens relaxent les contrôles, les gestes barrières et puis qu'on retombe encore dans le même cercle vicieux. Voilà, donc beaucoup d'espoir pour le futur.
Beaucoup d'espoir. Un mot rapide sur le rapport de l'OMS sur l'origine de ce coronavirus. L'étude privilégie l'hypothèse d'une transmission du virus à l'homme par l'intermédiaire d'un animal infecté par une chauve-souris. Qu'une hypothèse, donc, pour le moment. Connaîtra-t-on un jour de manière définitive l'origine de la maladie, docteur Etoua?
Je pense que il y a beaucoup d'hypothèses. Deux hypothèses semblent s'affronter. La première hypothèse est celle de l'accident de laboratoire et la deuxième hypothèse est celle d'une infection grâce au contact avec les animaux. Beaucoup d'animaux ont été incriminés, tels que la chauve-souris ou les pangolins. une enquête de l'OMS est en cours en ce moment. Elle séjourne encore, je pense, en Chine, où la pandémie a été officiellement déclarée. Beaucoup d'inconnus restent, mais moi, mon sentiment est que peut-être la vérité se trouve entre les deux. Peut-être que je vais m'avancer un peu en disant que probablement il s'agit pour moi de manipulation de carcasses d'animaux, on est encore dans la recherche, mais je pense que la vérité se trouve entre les deux. C'est quelque chose qui s'est passé entre les laboratoires, également avec des contacts d'animaux, et je pense que l'avenir nous éclaircira.
Voilà. Vaccin. L'Afrique parvient-elle à rattraper son retard dans le déploiement des vaccins anti-Covid, docteur Guindé Gazar?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, nous bénéficions de l'initiative COVAX, où dans les pays, l'OMS est en train de déployer les vaccins sur la demande, évidemment, des pays. Mais je pense que pour avoir une immunité collective, c'est-à-dire vacciner entre 60 et 70% de la population, il faudrait que les pays se décident à compléter ce que généreusement les partenaires nous donnent.
Ouais. Sans plus tarder, direction la République démocratique du Congo pour écouter cette question de Samantha Pascal. Elle est journaliste à Kinshasa.
Ma question est la suivante. Le vaccin contre le Covid-19 est-il efficace ? Et s'il est efficace, faut-il vraiment faire confiance à ce vaccin, étant donné que plusieurs pays ont justement suspendu la vaccination contre le Covid-19 avec le vaccin AstraZeneca?
Docteur Marine Baga, que pouvez-vous répondre à Samantha?
Merci. Je vais répondre à Samantha que la crise sanitaire du Covid n'est pas seulement aujourd'hui une crise sanitaire, mais elle est également une crise politique. Cependant, il faut avoir confiance à la science. La science est celle qui a fait des découvertes qui nous ont permis d'éradiquer les maladies telles que la polio, qui sont des maladies infectieuses au même titre que Covid. Donc la science reste de mise et les décisions politiques doivent impérativement se baser sur la science. La science dit quoi en termes de vaccins? Les études qui ont été faites pour avant de mettre les vaccins sur le marché, comme celui par exemple qui est aux États-Unis, ont été minutieusement approuvées par les organes et les instances compétentes pour le faire. Ils ont une efficacité et une sensibilité nécessaires pour apporter l'immunité à ce stade de la maladie. Et en ce qui concerne le vaccin AstraZeneca, je veux rappeler que le taux de thrombose veineuse des personnes qui ont été vaccinées est nettement inférieur au taux de thrombose de la population générale. Concluant donc que les gens qui sont décédés qui ont pris ce vaccin et décédés, ce n'est pas forcément dû au vaccin. Donc, la population doit faire très attention et c'est un appel aussi aux politiques qui doivent prendre des décisions en se basant sur la science et faire attention de ne pas aliéner la science et les croyances populaires. Donc, les vaccins pour l'instant sont la solution la plus efficace que nous avons aujourd'hui pour le COVID-19 et ce n'est sûrement pas à prendre à la légère.
Docteur Konaté, les scientifiques, comment effectuent-ils l'efficacité des vaccins? Comment mesurent-ils l'efficacité des vaccins?
Bon, l'efficacité des vaccins. Le but principal, en fait, du vaccin, c'est de nous protéger, de protéger la population et pour d'abord essayer d'éliminer les nombres de morts et essayer d'amoindrir la maladie, de l'éliminer totalement. Donc là, on peut déjà mesurer par le fait qu'il y a déjà moins de lits occupés dans les hôpitaux, dans les unités intensives. Il y a déjà moins de morts. Et aussi, il y a des gens qui se sont réinfectés après les deux doses. On a vu certains cas. Mais ils ne tombent pas malades. Ils n'ont pas beaucoup de symptômes dans la plupart des cas, je précise. Et donc, on voit quand même que le taux de... Comment dirais-je de, les symptômes se sont vraiment, vraiment, vraiment améliorés. Donc, je pense que ça, c'est déjà une bonne clé de mesure de la maladie. Et aussi, il ne faut pas aussi négliger le facteur psychologique aussi. Il y a la confiance qui est là. Les gens sont beaucoup plus confortables. Le personnel soignant qui est en première ligne aussi est beaucoup plus confiant et s'occuper des malades. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu et qui font que la communauté internationale est beaucoup, beaucoup plus en confiance et aussi, comment dire, nourrie de l'espoir aussi pour les avancées futures. Voilà.
Et maintenant, cap sur le Mali de Bamako, Samirou Diallo, un militant, veut vous poser la question suivante. Nous l'écoutons.
La question est de savoir quelles sont les données les plus surprenantes, inquiétantes et collectées après le déploiement de ces vaccins.
Docteur Kindé Kazar, que pouvez-vous répondre à Samirou?
Je dirais que l'ultime effet secondaire, c'est la mort. Il y a eu des décès. Même si les scientifiques nous disent qu'on ne fait pas de lien de cause à effet avec la vaccination, il y a quand même eu des décès. Et il y a tous les autres effets que nous appelons la MAPI, c'est-à-dire les effets adverses des vaccinations. Ça peut être du simple vertige aux manifestations, je dirais, neurologiques. Mais je voudrais insister sur un point. C'est parce que la communication est libéralisée aujourd'hui qu'on entend parler de ces effets secondaires. Tous les vaccins qu'on a administrés en termes de santé publique ont toujours eu des effets secondaires. Mais il faut mesurer le bénéfice que nous avons à vacciner aujourd'hui les gens contre la COVID-19. Nous n'avons pas d'autres armes. Donc, je pense qu'il faut y aller.
Et justement, docteur, ce qui nous amène à parler du vaccin AstraZeneca qui continue de faire couler beaucoup d'encre, beaucoup d'inquiétudes après de graves problèmes sanguins, mais aucune preuve d'un danger spécifique, il faut le préciser, nous disent de nombreux chercheurs. Les avantages de ce vaccin continuent-ils de l'emporter sur tous les risques, docteur Etoa?
Oui, je pense que il faut qu'on explique à la population que le principe de précaution devrait s'appliquer sur le virus et non sur le vaccin. Ouais. Effectivement, on va dire que le vaccin a causé un ou deux morts, un ou deux effets secondaires et qu'on doit prendre des précautions. Non, le principe de précaution devrait plutôt s'appliquer sur le virus. C'est le virus qui cause des centaines, des milliers, voire des millions de morts. Et chaque fois que, si on a la moindre solution qui peut diminuer ce nombre de morts, il faut l'appliquer et non de prendre des précautions pour prendre des précautions radicales pour réduire à minima le risque de thrombose. Effectivement, tout médicament peut créer des effets secondaires. Parce que c'est un corps étranger que nous admettons dans notre organisme. Oui. Mais la vaccination cause beaucoup plus de bénéfices que de risques. Donc, il faut que. Et c'est un message important qu'il faut passer à la population africaine où l'hésitation vaccinale est au sommet. Parce que, effectivement, les gens doutent. De l'efficacité des vaccins, les gens doutent de l'innocuité des vaccins, les gens doutent de l'utilité, les gens mettent un certain nombre de théories du complot à l'intérieur, ce qui fait évidemment que les campagnes de vaccination ont tendance à patiner. Et je peux dire que cette théorie, cette hésitation n'est pas seulement partagée par les populations, même par les dirigeants. C'est pour ça que vous verrez que les dirigeants africains seraient beaucoup moins pragmatiques que leurs homologues anglais ou américains ou israéliens qui ont furieusement et massivement vacciné leur population. Donc c'est ce qu'il faut dire à la population.
Voilà, et vous allez apprécier parce qu'on va parler de votre pays. Il y a une question qui vient du Cameroun. Elle porte sur les variants et elle nous vient de votre pays. Nous écoutons.
Faut-il être très inquiet des variants du Covid-19? Est-ce que certains variants sont plus mortels que d'autres? Est-ce que ces vaccins sont disponibles pour tous ces variants? Que faut-il craindre à long terme avec ces nouveaux variants?
Docteur Konaté, que pouvez-vous répondre à cette question du Cameroun?
D'accord, merci. Bonjour au Cameroun. Voilà la question des variantes, en fait. Ça, c'est aussi un des points vraiment saillants aussi de, qui ressort pour la, l'efficacité de la vaccination. En fait, quelle est la crainte? La crainte est que, avec tous les efforts d'accélération de la production d'un vaccin, qui est une première mondiale, que ce vaccin vienne après toutes les inoculations, que le vaccin soit résistant à ces variantes-là. En effet, quand on commençait, on avait, bon, au début une variante, est-ce parce qu'on ne faisait pas de test ou est-ce parce qu'il y avait une seule variante? Et tout à coup, des variantes ont commencé à ressurgir, celle du Royaume-Uni, celle de l'Afrique du Sud, celle du Brésil. Ici aux États-Unis, où je me trouve en ce moment, il y a aussi différentes variantes qui ont ressurgi en Californie et beaucoup d'autres. Et donc, en fait, la crainte, c'est que les variantes, en fait, deviennent maintenant les nouvelles variantes. Maintenant domine les anciennes variantes. Ce qu'on a vu ici, par exemple, quelque part, il y a des variantes, par exemple la variante UK du Royaume-Uni qui est en train de dominer la variante originale qu'on avait. Et donc, à voir maintenant que la variante va résister au vaccin, ça n'a pas encore été prouvé. Je crois plutôt qu'il y a des études très, très optimistes sur le fait que les vaccins sont aussi efficaces sur les variantes.
En effet, le nouveau coronavirus se transforme de plus en plus. Depuis plusieurs mois, émergent de nouvelles souches du virus à l'origine du Covid-19. Pour nous détailler ces différents variants sur ce plateau, Mohamadou Mfa, content de vous revoir, Mohamadou.
Salut Jacques, content de vous revoir également.
Combien de variants sont connus en ce moment et quels sont-ils?
Effectivement, Jacques, comme l'ont dit les experts, il existe plusieurs variants, mais à ce stade, trois sont considérés comme des variants préoccupants selon la dénomination de l'OMS. Il s'agit des variants d'abord détectés en Angleterre, en Afrique du Sud et au Japon, mais sur des voyageurs en provenance du Brésil, d'où son nom commun de variant brésilien. Selon le dernier point de l'OMS, ces variants circulent respectivement dans 125 pays pour le variant britannique, 75 en ce qui concerne le variant sud-africain et 41 pays pour le variant dit brésilien. En soi, Jacques, l'apparition des variants est tout sauf une surprise. C'est un processus naturel puisque le virus acquiert des mutations au fil du temps pour assurer sa survie. Mais la plupart, Jacques, n'a pas d'impact en termes de santé publique selon l'OMS.
Oui, Mohamadou, nous parlons justement d'impact. Quelles sont les principales conséquences de ces variants sur la pandémie de Covid-19?
Jusqu'à présent, il y a eu plusieurs études. Les études disponibles notent que des variants ont été rapportés et qu'il y a par exemple une mutation appelée N501Y, commune aux variants anglais, sud-africains et brésiliens, qui est soupçonnée de rendre le virus plus transmissible. Les variants sud-africains et brésiliens portent une autre mutation suspectée d'amoindrir l'immunité acquise, soit par une infection passée, soit par les vaccins. Les variants seraient aussi plus contagieux. Des chercheurs de l'université de Harvard ont émis une autre hypothèse. Selon eux, l'infection provoquée par le variant anglais pourrait durer plus longtemps. Un individu infecté resterait contagieux pendant une plus grande période qu'avec le coronavirus classique, ce qui pourrait nécessiter d'allonger la période d'isolement. Bref, plusieurs études montrent que les variants préoccupants seraient plus dangereux que les coronavirus classiques.
Oui, et c'est un aspect en contour que nous abordons dans ce programme. Pas mal de personnes se demandent si ces variants affectent l'efficacité des vaccins. Que disent les experts?
Oui, selon certaines études, l'efficacité des vaccins n'est pas sensiblement réduite par le variant anglais, mais semble l'être par les variants sud-africains et brésiliens. Quoi qu'il en soit, les fabricants travaillent à de nouvelles versions de leur vaccin adaptées au variant Moderna. A ainsi annoncé le 10 mars qu'il avait commencé à injecter de nouvelles générations de son vaccin à des premiers patients dans le cadre d'un essai clinique. Cette adaptation est indispensable car des variants contre lesquels les vaccins actuels pourraient être moins efficaces vont probablement continuer à émerger. C'est ce qu'a fait savoir le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.
Oui, et on va continuer à parler de tout cela. Merci Mohamadou Mfa, à très bientôt.
À très bientôt.
Justement, j'allais demander au docteur Mbaga, ces nouveaux variants peuvent-ils affaiblir les vaccins actuels?
Oui, laissez-moi revenir un peu sur un point important que les collègues ont évoqué, c'est-à-dire la communication et ce qu'il faut pour... parce que même si les vaccins sont efficaces, si sur place, par exemple, en Afrique, on ne fait pas ce qu'il faut, les préalables au niveau de la population, ça ne servira à rien. Il faut que les politiques publiques soient appliquées, c'est-à-dire il faut que dans les pays africains, qu'il y ait des politiques de vaccination. Comment on vaccine les gens? Est-ce que c'est obligatoire ou c'est facultatif? Et quand c'est facultatif, quelles sont les conditions? Le deuxième point, c'est la formation du professionnel de santé pour permettre à ces premiers soldats de pouvoir donner les avantages et les inconvénients à leurs patients. On appelle ça le consentement éclairé pour que ils amènent leurs patients à comprendre les bien fondés du vaccin avant de se vacciner. Et maintenant, pour répondre à vos questions, à votre question, est-ce que la vaccination pourra être diminuée avec les nouveaux variants? Comme la collègue a dit, nous avons l'humilité dans la communauté scientifique de reconnaître que cette maladie est dynamique dans le temps. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément. Et ça fait partie de la communication dans nos pays qui doit prévaloir. Être patient, regarder ce que la science nous offre à un moment T, mais ne pas prendre ça pour vérité établie, continuer à chercher parce que ça va être dynamique. Comme tout virus, même le virus de la grippe, on se vaccine chaque année parce qu'il y a des variants nouveaux pour pouvoir élargir le spectre d'action du vaccin. Cependant, le vaccin que nous avons aujourd'hui, il est indéniable que dans la grande famille des Covid, il peut être efficace ou alors il est efficace à un certain niveau. Donc, il va continuer à être efficace sur les autres variants, mais pas à 100%. Et la collègue le disait tout à l'heure, ceux qui sont vaccinés aujourd'hui peuvent encore attraper la maladie, mais la symptomatologie sera beaucoup moins virulente que celui qui n'est pas vacciné. Ça montre déjà que ils sont efficaces sur la grande famille des les coronavirus, mais les variants, on va améliorer le vaccin au fur et à mesure, comme ça se fait déjà avec le vaccin de la grippe, qui, je dois le rappeler, change chaque année, oui. Et c'est vers là que nous nous acheminons.
Voilà. Docteur Kindé Kazar, finalement, sur quel type de vaccin faut-il alors le plus compter par rapport à cette situation mouvante? Des vaccins faciles à adapter?
Je pense que actuellement, le vaccin qui pourrait s'adapter aux mutants, ça c'est un terme scientifique, mais les variants que nous avons. Bon, donc malheureusement, nous en Afrique, nous n'avons pas de quoi accueillir les vaccins à ARN comme le vaccin Pfizer. Et parce que la conservation doit aller dans un congélateur de moins 80 degrés. Qui n'est pas disponible partout dans le centre de santé. Mais moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit ma collègue qui a pris la parole avec moi, c'est sur la capacité d'organisation des pays africains. Nous avons les outils, les armes pour déployer la vaccination dans nos pays parce que nous avons l'habitude de mener des campagnes de vaccination. Quand je prends des campagnes de vaccination contre la fièvre jaune qui est un virus, les campagnes de vaccination contre la poliomyélite qui est un virus, et nous avons l'habitude de travailler avec les agents communautaires pour déployer cette vaccination-là pour nos communautés. Donc je pense que contrairement au débat qui a cours actuellement en Occident, oui. Nous n'aurons pas de problème si nous avons de quoi conserver correctement les vaccins et si nous avons la disponibilité des vaccins, je pense que nous allons pouvoir vacciner la population à l'aise.
Et voilà, un grand merci à tous nos invités. Cette première tranche du Monde Aujourd'hui spécial Covid-19 prend fin ici. Mais ne ratez pas la seconde et dernière partie la semaine prochaine. Ce sera pour le vendredi 16 avril. À ne pas manquer non plus, immédiatement après cette émission ce soir, l'équipe web de VOA Afrique continue la conversation avec des invités et vos questions sur Facebook Live. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un très bon week-end. C'était Jacques Aristide à Washington. Prenez bien soin de vous. À lundi. Merci.